Question d'Islam par Ali Ben Sheikh. Aujourd'hui, nous parlons de conversion. Qu'est-ce qu'on entend par ce vocable, ce mot? Qu'est-ce que c'est que la conversion? Nous verrons l'étymologie du mot lui-même et puis le fait de la conversion, le phénomène conversion. Pour cela, j'ai plaisir à accueillir deux intervenants. D'abord, Loïc Lepape. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour et merci de nous faire l'amitié de venir parler de ce sujet. Vous êtes maître de conférence à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous êtes chercheur et vous avez consacré une dizaine d'années de votre vie à observer, à étudier ce phénomène, si vous me pardonnez le terme, de la conversion. Et puis à vos côtés, il y a Dominique Théuissen. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour et merci aussi de vous être déplacé depuis Bruxelles. Vous êtes psychothérapeute, vous êtes conférencière, vous avez enseigné longtemps la religion islamique en Belgique. Et vous êtes, je le dis d'emblée, vous-même musulmane, après un parcours dit de conversion. Donc nous comprendrons cela. D'emblée, Loïc Lepape, c'est vous qui connaissez ces choses-là mieux que moi. La conversion, chez les Grecs, est une métanoïa, un retour. Il y a aussi l'autre étymologie, l'épistrophée. D'emblée, pour les auditeurs de France Culture, à quoi renvoient les deux étymologies grecques? On n'a même pas parlé de l'étymologie latine, la conversio.
Oui, alors effectivement, la conversion, c'est une bifurcation, c'est un changement. C'est un changement important dans la vie d'un individu. C'est une bifurcation et c'est aussi probablement un retour à soi, une révolution au sens littéral du terme. Je pense qu'on peut dire d'un point de vue plus sociologique, puisque c'est de là où je parle, qu'il y a plusieurs types de conversion, et c'est peut-être bien de le dire en introduction. On peut changer de religion, on passe d'une religion à une autre en se convertissant. On peut aussi choisir une religion. C'est quelque chose qui est très développé aujourd'hui, puisqu'il y a un moindre héritage des traditions familiales religieuses. Et puis, enfin, on peut aussi se réengager dans la religion à laquelle on appartient ou à laquelle la famille appartient. Et donc, c'est, me semble-t-il, trois façons d'envisager, pour commencer l'entretien, la multiplicité des formes d'adhésion à une religion aujourd'hui.
Dans le dernier cas, Loïc Lepape, c'est en fait un retour à Dieu dans le cadre de la croyance, donc dans sa propre tradition religieuse. C'est comme s'il y avait une certaine tiédeur ou un certain écart. Et puis on se retourne vers Dieu, on fait cette bifurcation, ou en tout cas ce retournement vers Dieu, encore une fois, dans la famille abrahamique. Dominique Théuissen, vous êtes le témoin. Donc, c'est sur un plan testimonial que vous vous placez, ce qui n'enlève en rien à votre analyse intellectuelle. Cette conversion, comment s'est-elle opérée? Vous êtes venu d'une autre tradition religieuse à l'islam, ou c'est d'emblée une islamisation?
C'est un peu les deux, parce que moi, je viens d'une famille complètement mosaïque, avec des traditions philosophiques et religieuses diversifiées. J'ai été éduquée par des parents athées, mais qui avaient eux-mêmes des parents croyants, tradition catholique d'un côté, et puis très pratiquants protestants de l'autre. Et pareil par rapport au pays d'où on vient, j'ai même un arrière-grand-père qui était aussi franc-maçon, donc voilà, c'était vraiment un cocktail. Et puis j'ai reçu une instruction religieuse quand j'étais enfant, protestante évangélique. Et puis, quand j'étais petite, j'étais croyante, voilà. Et puis, je me suis un peu éloignée de tout ça pour diverses raisons. Et c'est quelque chose qui s'est réveillé, en fait, à l'occasion de mon intérêt pour l'islam. Et c'est vrai que si on étudie un tout petit peu les religions, moi, j'ai retrouvé des choses de mon enfance dans l'islam, en fait. parce que l'islam sunnite est très proche de la chrétienté protestante, en fait. Il y a vraiment des choses qui m'ont beaucoup touchée, beaucoup parlé. Et c'est vraiment, je dis souvent, c'est une foi d'enfant qui s'est réveillée en réalité. Voilà.
Bien. Loïc, le pape, c'est le chercheur qui dit qu'il y a une typologie de conversion, et notamment la conversion à l'islam. Après les étymologies, après cette introduction, comment avez-vous pu établir ces différentes typologies ?
Alors, je suis embêté sur la typologie, parce que c'est quelque chose que je travaille depuis une dizaine d'années, et j'arrive pas à trouver une typologie scientifiquement satisfaisante. Donc, je suis toujours très réticent à parler de typologie, mais il faut quand même bien dire pour les sociologues que notre métier, c'est d'observer et de classer. Donc la typologie fait partie des opérations que nous devons mener pour cela. En ce qui concerne l'islam, puisque mon travail porte sur les conversions dans les monothéismes, typiquement sur la conversion à l'islam, il y a un certain nombre de parcours qui sont remarquables dans leur singularité et qui doivent faire l'objet d'une typologie spécifique. Je crois que la première catégorie, le premier type de conversion, c'est celui dont tout le monde parle et dont personne ne sait rien. Hein, c'est cette fameuse conversion radicale dont on a peine à se saisir et dont on a peine à expliquer les ressorts, etc. Donc là, je pense qu'il y a
une... Vous commencez par celle-là, dans mon esprit, je pensais que vous allez finir par celle-là. Mais gradation ou la dégradation, ça peut aller dans les deux sens.
C'est bon. Ça, en fait, je commence par celle-là pour l'évacuer au plus vite. Bon. Donc premièrement, on pourrait dire qu'il y a une conversion de type radical dont on parle beaucoup, mais dont on ne sait pas grand-chose. La deuxième, qui me semble aussi spécifique, c'est la conversion à l'islam mystique, au soufisme, qui est, me semble-t-il, un type de conversion en soi aussi. Et donc, avec ses spécificités, avec l'entrée dans une confrérie, etc., donc qui implique un certain nombre de passages, de rituels, etc. Et puis enfin, il y a l'immense majorité des conversions. Et c'est là-dessus qu'il faut essayer de réfléchir à une typologie qui soit un tantinet valable. Et donc j'en suis pour l'instant à deux types de conversions. Une conversion de type instrumental, ça existe beaucoup aussi. On se convertit pour se marier, par exemple, ou pour faire cadeau de sa religion à l'autre. Hein, la conversion comme offrande à l'intérieur d'un couple ou d'une famille, ça c'est une particularité. Et puis j'appelle aussi conversion de proximité ou conversion affinitaire, c'est-à-dire quand on a une histoire, un lien particulier à l'islam, que ce soit des voisins, que ce soit des voyages, que ce soit des lectures, etc. Je pense que c'est aussi un type de conversion. Donc voilà, en gros, une typologie en quatre points qui vaut ce qu'elle vaut, mais dont je ne suis toujours pas satisfait.
Alors, j'ai cru comprendre effectivement qu'il y a ce quadriptyque. Il y a d'abord, si je pars depuis la conversion dite radicale, nous verrons tout à l'heure les différentes justifications, comme vous les présentez si bien. J'ai suivi une de vos conférences, c'est pour ça que j'ai l'air de connaître un tout petit peu ce domaine qui est au cœur de votre recherche. Donc, conversion dite radicale, conversion affinitaire ou de proximité, conversion instrumentale pour mariage, mais aussi pour pouvoir aller travailler en Arabie Saoudite ou ailleurs, dans les Émirats du Golfe, et puis celle de l'élévation spirituelle. Dominique Théhuissen, vous pardonnez mon indiscrétion si je vous pose la question. D'abord, est-ce que vous vous reconnaissez dans cette typologie et à laquelle appartenez-vous ?
Oui, je trouve la typologie pas mal du tout par rapport à ce que... Enfin voilà, je comprends bien que d'un point de vue scientifique, vous ne soyez pas encore satisfait, mais en fait, dans ce que j'ai pu rencontrer sur le terrain, je pense que ça correspond assez bien. Et alors moi, comme je suis toujours un petit peu à cheval sur différentes catégories, je me situerais plus dans la conversion... J'ai oublié le terme que vous avez utilisé.
Spirituel ?
Non, pas spirituel.
Affinitaire.
Entre l'affinitaire et l'instrumental. C'est ça, je ne me trompe pas de mot. parce que moi, j'ai, enfin, l'islam a croisé ma route, ou c'est moi qui ai croisé la route de l'islam. Je ne sais pas, à l'occasion d'une rencontre amoureuse qui m'a fait m'intéresser à la personne et à ce qui la constituait, notamment sa religion. Et donc, il y a eu quelque chose qui était mixte un peu entre les deux, parce que notre couple n'était pas conditionné à une conversion ou l'autre. Et je pense même d'ailleurs que ma conversion a participé à dissoudre le couple. Mais en fréquentant une personne qui est musulmane, mais forcément, j'ai eu des contacts avec des personnes, je les ai vus prier, je me suis vraiment intéressée à des choses. J'ai voyagé plusieurs fois au Maroc, alors pas dans des hôtels de touristes, vraiment dans une famille avec cette prière quotidienne qui était là, que les gens accomplissaient comme ça, l'adhan qu'on entendait dans la rue. Enfin,
adhan étant l'appel à la prière le muezzin.
Voilà, tout à fait. Et donc c'est vrai que ça, ce sont des choses qui ont vraiment et qui ont vraiment réveillé quelque chose. Un besoin spirituel aussi qui était là chez moi depuis quelques années. J'étais quand même en recherche. Voilà, j'avais déjà changé beaucoup de choses dans ma vie, remis certaines choses en question au niveau consumériste. Enfin, voilà. Et donc, c'est vrai que ça venait un peu répondre aussi à ce besoin-là. Mais l'entrée ne s'est pas faite par cette porte-là parce qu'il n'y avait pas de confrérie au départ. Voilà.
On dit, je réagis tout de suite à ce que vous avez dit, Dominique Théuissen, qu'en réalité, lorsqu'on vient du judaïsme ou du christianisme, dans la prétention islamique, ce n'est pas une conversion, c'est un aboutissement ou un accomplissement. Mm-hmm. Donc, à moins qu'on comprenne la conversion dans son sens étymologique, qui est aussi de faire un retour à Dieu. Vous, c'est un accomplissement ou véritablement un retour, une conversion, une bifurcation de votre trajectoire de vie?
Je pense que c'est une bifurcation. D'accord. Parce que jusque-là, je ne me suis jamais revendiquée comme croyante. J'étais plutôt, D'accord. Je faisais partie des gens plutôt agnostiques. J'ai jamais été athée, mais il n'y avait pas de religion dans ma vie. Et là, depuis l'islam, il y en a une. Et même si j'ai cheminé énormément, un peu plus de 10 ans maintenant, je suis passée par plein de stades, mais l'islam est là et il reste. Alors, il reste d'une autre façon maintenant. Ça, il y a beaucoup de choses qui évoluent.
Loïc, le pape, vous dites que la conversion est aussi un travail de justification. Quelles sont ces différentes justifications? On donne les raisons, on les met en avant, on essaye de se prouver à soi-même et puis à son entourage, de mettre en avant les différentes raisons extrinsèques et peut-être même intrinsèques à cette démarche.
Oui. Pour moi, fondamentalement, alors là, c'est mon regard de sociologue, hein, je suis désolé, mais pour moi, fondamentalement, la conversion est un processus social, éminemment social. Et c'est quelque chose qui doit être partagé. On a souvent, et la sociologie des religions en premier, a souvent tendance à réifier l'individu qui se convertit comme un parcours individuel, parfois touché par la grâce, bref, un changement individuel qui n'est pas questionné en tant que tel. Et c'est vrai que mes recherches se sont inscrites un peu en porte-à-faux par rapport à ça, et j'ai essayé de montrer que la conversion est quelque chose qui dépasse le simple cheminement spirituel individuel et qui doit être justifié. Voilà, on doit, le converti ou la convertie doit expliquer son geste, doit le justifier pour en retour être perçu comme converti et accepté comme tel. Alors c'est très relationnel, très interactionniste, diraient les sociologues, mais c'est véritablement ça. Et donc j'ai travaillé un peu cette question en montrant qu'il y a différents espaces dans lesquels les convertis doivent se livrer, doivent livrer leur cheminement, livrer leur parcours, doivent témoigner, mais aussi se livrer et quelque part se mettre en danger pour faire accepter et justifier leurs gestes. Voilà.
Parmi ce travail de justification, il y a ce qui est à l'égard de la communauté d'accueil. Je dis communauté, même si en France nous ne reconnaissons qu'une seule communauté nationale d'un destin commun, mais la communauté d'accueil. Mais il y a aussi un travail de justification vis-à-vis de la communauté d'origine, enfin qu'on a quittée ou dont on pense qu'on l'avait quittée. Elles s'alimentent l'une l'autre, ces justifications?
Oui, fondamentalement, l'une procède de l'autre. Dans un article typiquement sur la conversion à l'islam, avec des collègues, on oppose, peut-être un peu grossièrement, mais le monde d'avant et le monde d'après. Et pourtant, il y a véritablement quelque chose de ça. C'est le monde d'avant, c'est le milieu d'origine. C'est essentiellement l'entourage, la famille, les gens à qui on doit expliquer notre conversion. Et le monde d'après, c'est la communauté dans laquelle on est inclus. Et donc, effectivement, il y a un échange entre ces deux mondes et le converti est la personne qui fait le lien entre les deux et qui doit être présent à la fois dans sa communauté, montrer des gages d'adhésion, d'attendance au rituel, etc. Et en même temps, montrer que les choses n'ont pas changé, que c'est toujours la même personne, expliquer si jamais il y a des questions de la part de son entourage, etc. Et donc c'est, me semble-t-il, la position très inconfortable des convertis qui sont toujours pris entre deux feux, si vous voulez, entre suspects dans une nouvelle communauté, puisqu'ils viennent de trahir une religion, ou de, en tout cas de trahir une lignée quelque part en se convertissant, en faisant la démarche transgressive de la conversion, et donc en étant suspect de cela. Suspect de la possible trahison et en même temps dans le milieu d'origine où il faut expliquer, justifier et en même temps montrer que peu de choses ont changé.
Dominique Tewissen, êtes-vous passé par ces différentes étapes? Là, vous y retrouvez
Quand je l'écoute, je bondis intérieurement, pas par opposition aux propos, mais tellement ces propos résonnent très très fort parce que il y a une vraie souffrance derrière tout ça. C'est très très compliqué parce que les personnes effectivement ne comprennent pas les personnes du milieu d'origine. Voilà, d'expliquer un choix religieux. D'abord, moi, je ne sais pas si vous avez vu. Je rencontre de plus en plus de gens qui gardent leur conversion complètement privée, intime et qui n'en parlent à personne, ni d'un côté ni de l'autre. J'en ai rencontré quelques-uns récemment. Et moi, au début de ma conversion, je ne savais pas en parler. C'était très compliqué parce que je ressentais un bouleversement intérieur. J'avais pas du tout envie qu'on vienne m'ennuyer avec ça. Donc j'en avais pas parlé du tout à ma famille. Alors moi c'était un peu particulier, j'étais déjà une personne de 44 ans, j'avais 3 grands-enfants qui étaient quasiment adultes, des parents relativement âgés. Donc j'ai pu garder ça pour moi, mais quand mes enfants s'en sont rendus compte, il y a eu un énorme clash familial. Ça a été très très difficile à traverser. Et puis par contre, au niveau de la communauté d'accueil, moi j'ai eu énormément de chance. La première fois qu'on a remis en cause les raisons pour lesquelles j'étais convertie, etc., ça s'est passé une ou deux fois, mais vraiment très très longtemps après ma conversion. J'étais déjà bien solide, j'étais devenu un personnage public en plus. Et en fait, ça, le fait de devenir très vite un personnage public dans la communauté, moi, ça m'a complètement protégée. Personne n'est jamais venu me demander « Tiens, tu fais ceci ». On avait pour moi en tout cas beaucoup d'indulgence, je pouvais faire beaucoup de bêtises, beaucoup d'erreurs, on me disait toujours « Oh, miskine, ah, c'est pas grave, la pauvre, donc en arabe, c'est pas grave, elle sait pas encore ». Et puis comme j'avais cette compétence de psychothérapeute, et à l'époque il y en avait très très peu, les gens, ça fait 2-3 ans qu'il y a beaucoup beaucoup de jeunes musulmans, musulmanes qui sortent des écoles, conseillers conjugaux, psy, etc. À l'époque on était très très peu, donc on était vraiment une denrée rare. Et donc du coup j'ai un peu été protégée, encensée comme ça. Mais c'est vrai que j'entendais des personnes, alors surtout des personnes un peu moins instruites. Quand elles se convertissent, en général, elles sont directement soupçonnées. Oui, c'est parce que... Alors, quand c'est des hommes, c'est encore pire, parce que les hommes, c'est toujours pouvoir épouser une femme. Et donc, comme on est très fort avec ce désir de pureté, ce qu'on est bien sûr, c'est un vrai, vrai musulman pour donner sa fille, sinon ça va plus. Et donc, c'est vrai qu'il y a il peut y avoir des pressions très, très fortes d'un côté et de l'autre. Et les pressions, c'est seulement maintenant que je les vis, maintenant que je montre une certaine dissidence par rapport à une orthodoxie avec laquelle je dis publiquement que je ne suis pas d'accord avec ça. Alors là, maintenant, je commence à recevoir des critiques ou des appels à revenir dans le droit chemin et à la fois des gens qui me disent « Enfin, quelqu'un qui ose dire tout haut ce qu'on pense tout bas, etc. etc. » أباب سيدي بابا والعياط على بابا يا بن حمدوش ويا قلاديب
العدين يا برحم دوموش جود برداقك أني
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et tout particulièrement aujourd'hui nous parlons de conversion et de la conversion d'autres traditions religieuses ou de l'agnosticisme ou de l'athéisme à la religion islamique avec deux intervenants, Loïc Le Pape, maître de conférence à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, chercheur en sociologie des religions et la cible de recherche pendant une dizaine d'années au moins est sur les conversions d'une manière générale et tout particulièrement la conversion à l'islam. Et à vos côtés, Dominique Théhuissen, psychothérapeute, conférencière, enseignante de la religion islamique et convertie. Donc vous êtes musulmane. J'enchaîne avec vous, Dominique Théhuissen. Un point de détail peut-être pour certains. Et de mon point de vue, si tant est qu'il me soit permis de donner mon avis, c'est l'affaire du changement de prénom. Vous, vous êtes resté Dominique. En tout cas, c'est ce que nous connaissons.
Oui et non. En fait, j'ai adopté un prénom, un deuxième prénom, avant des mois avant de me convertir. C'était un truc un petit peu folklorique comme ça avec mon mari de l'époque, qui m'avait dit « ça serait bien que tu choisisses un prénom arabe, parce que pour ma famille, surtout ma maman, elle va avoir du mal à t'appeler Dominique ». Et effectivement, j'ai remarqué que pour les arabophones, dire Dominique, c'était très compliqué.
Oui. Alors, j'ai pas fini ma question. Non, je vous en prie. C'est que je ne vois pas, à titre personnel, où est l'exigence théologique.
Non, aucune. Alors, ça c'est un truc vraiment... J'utilise le mot folklorique, parce que c'est tout à fait ça. Et donc, le prénom a été... Je dis, oh oui, pourquoi pas. Mais moi, j'ai pris tout ça très légèrement au départ. Hein. Moi, je vivais une relation amoureuse. On m'a dit, pour faire plaisir à ta belle-mère, ça serait bien que tu choisisses un prénom comme ça, ok. Voilà, la belle famille...
Nous pourrions le savoir.
Oui, je vais vous le dire. Il écrit dans mon bouquin et tout. Donc, c'était Aïcha. Puis je me suis rendu compte après que c'était vraiment un prénom qui me collait à la peau, en plus, à bien des égards. Et puis, naturellement, quand je me suis convertie... Alors ça aussi, c'est du folklore. C'est une façon de ritualiser aussi, je veux dire, l'entrée dans la communauté, c'est d'adopter un prénom, alors qu'effectivement, il n'y a aucun fondement théologique à ça, ça c'est clair. Et donc au début, ça a été beaucoup... Alors c'est vrai qu'en tant que converti, au tout début, quand on est dans cette période très fragile, où on a un petit peu besoin d'être cocooné, là, comme un bébé, d'être porté là, dans ce nouvel état, c'est vrai que le prénom, ça a quelque chose de rassurant. Et que c'est une reconnaissance un petit peu quand on vous appelle par un prénom en disant mais ça c'est voilà ça acte quelque part symboliquement la démarche. Moi j'ai vraiment envie de mettre ce côté-là en question. Pour moi ça n'a rien à voir avec la théologie.
Je comprends et en plus vous avez dit que c'était un prénom arabe, vous n'avez pas dit prénom islamique, ce qui sous-entend qu'on pouvait appeler Khadija avant même d'être musulmane, il le restait, qu'on pouvait s'appeler Christine et le rester après sa conversion.
Tout à fait.
Sinon, il n'y a pas une prétention à cette religion, la religion islamique, d'être universelle. Elle est valable pour ceux qui s'appellent Mamba, Mamboula, et elle est valable pour ceux qui s'appellent Eric ou Alain.
Évidemment, mais c'est comique parce que maintenant, enfin, le Aïcha a monté un peu plus que le Dominique à un moment, et maintenant, le Dominique, c'est compliqué d'avoir deux prénoms.
Oui. Et le choix s'est fait parce que c'était l'épouse préférée du prophète ou
pas du tout,
mais alors, comme ça.
À l'époque, je ne savais absolument rien de l'islam. Et c'était parce que mon mari, à l'époque, disait « Moi, j'aime bien Fatima et j'aime bien Aïcha ». Le prénom Fatima, ce n'était pas du tout un prénom qui me plaisait. Et Aïcha, je m'aimais bien. Je dis « Oh, ben oui, pourquoi pas ?» Et il se fait qu'il y a eu plein de points communs comme ça. Mes deux prénoms, en fait, ont donné lieu à une chanson, par exemple. C'est comique. Donc, quand je donnais mon nom de converti, les gens me disaient « Ah, Aïcha, Aïcha, machin, la chanson de, je ne sais pas comment il s'appelle. »
De Cheb Khaled.
Voilà. Et puis, quand Dominique aussi, il y a Sœur Dominique qui a chanté il y a des années. Enfin, voilà.
Ben voilà, vous avez les deux qui sont supports de chansons devenues populaires. Loïc Lepape, vous ne vous étonniez pas, mais c'est le chercheur, et donc avec la froideur d'esprit, la distanciation et la rectitude et rigueur académique, que en ces temps particuliers de mise islamie, de haine et de détestation et d'hostilité à l'islam, mais aussi d'islamophobie, donc de peur et parfois irraisonnée ou irrationnelle vis-à-vis de cette tradition, qu'il y ait encore... Je ne sais pas s'il y a un engouement ou pas, mais en tout cas qu'il y ait ces phénomènes dits de conversion dans des contextes particuliers.
Oui, non, ce n'est pas du tout quelque chose qui m'étonne, mais c'est effectivement un challenge à expliquer, par contre.
De la part du ou de la converti? Ou c'est
ah non, non, de la part du sociologue.
Du sociologue.
C'est quelque chose qui est compliqué. Mais je suis tout à fait d'accord avec le constat. C'est-à-dire que on assiste, il y a des conversions. On ne sait pas, on n'a pas le nombre. Ça ne sert à rien de discuter là-dessus. Mais il y a quand même des conversions qui se font, qui se poursuivent, des bifurcations, etc. Mais je crois que c'est un peu aussi... redevable d'explication plus générale où il faut, me semble-t-il, questionner, alors là, il faudrait 25 émissions, mais questionner le rapport de la France à l'islam, le fait que cette religion est aussi quelque chose qui est de l'ordre de notre histoire déniée, mal digérée, etc. Qu'elle a été... toujours encadré par des lois dérogatoires ou des lois d'exception. Je pense à la loi de laïcité.
Celle de 1905, voilà. La loi de séparation, qui n'était pas appliquée dans les départements d'outre-Méditerranée.
Voilà, etc., etc. Donc je pense qu'il y a et plus la façon dont la laïcité française s'est développée dans un rapport spécifique, non pas à la religion, mais aux religieux, hein, où pour beaucoup, la laïcité, c'est l'absence de religieux, fait que il y a, malgré tout, toujours des conversions à l'islam et que celles-ci sont toujours décriées.
Dominique Théhuissen, il y a un cérémonial par lequel on doit passer pour déclarer solennellement son islamité, ou les choses se sont faites, dans votre cas, d'une manière naturelle et...
Dans mon cas, les choses se sont faites d'une manière naturelle, chez moi, dans mon salon. Il n'y avait que mon mari qui était là, c'était tout. Voilà, et puis je connais pas mal de gens qui se convertissent tout seuls, comme des grands. Et puis il y a aussi, pour des raisons folkloriques et peut-être un peu démagogiques, enfin, je ne sais pas si le mot est bien choisi, mais en tout cas... pour donner
ça
envie.
L'est dans certains cas. Enfin, pardon, l'étymologie du mot, je le dis toujours sous le contrôle de Loïc Lepape, c'est conduire le peuple. Et il n'y a pas plus noble que de vouloir conduire le peuple, mais dans certains cas, la démagogie, ça peut l'emmener dans situations terribles.
Et alors là où on assiste à des cérémoniels, comme ça, dans les mosquées, et alors avec moi, j'ai assisté à des scènes... Enfin, absolument ahurissante à l'époque où je fréquentais encore les mosquées. Et autour de conversion, j'ai même assisté un jour à la conversion d'une dame qui était... Parce que ça aussi, je ne sais pas si vous avez approché ça, mais la question des troubles mentaux et de la religion, il y a quand même pas mal de personnes qui ont des troubles mentaux, qui sont attirées par l'islam, parce que l'islam est une religion extrêmement carrée, cadrante, si on la prend au pied de la lettre. Et donc vraiment, on a parfois des personnes qui trouvent dans l'islam comme ça une espèce d'ancrage quand elles sont un peu limites. Et j'ai eu un jour une anecdote comme ça. J'assistais à la conversion d'une dame qui était en délire, en fait, et à qui j'ai donné ma carte en lui disant, écoutez, si, voilà, en tant que nouvelle convertie, mais elle m'avait l'air un petit peu bizarre. Puis j'en ai eu la confirmation 24 heures après, où cette dame était... voilà, complètement en délire, avait été trouvée par un monsieur qui m'a appelée parce qu'elle avait ma carte dans son sac. Quoi. C'est une anecdote très particulière. Et ça, c'est un aspect qui est quand même fort important. Parce que parmi les personnes qui accompagnent des convertis, il y a quand même énormément de cas, enfin énormément, il y en a en tout cas en nombre, des personnes qui sont très fragiles psychologiquement, voire vraiment sur des versants presque...
De démence. Oui, on ne va peut-être pas aller à ce mot trop
oui,
fort.
Tout à fait. Si, non, tout à fait. C'est la dame de qui je vous parle, clairement, c'est une dame qui était démente, tout à fait. Et la démence, c'est pas un état permanent, en fait. On a des pics, on a des bouffées délirantes, en fait. Donc, voilà.
Loïc Le Pape, dans vos études, vous dites que il y a certains aspects de la tradition religieuse islamique qui constituent un attrait pour ces nouveaux convertis, hommes et femmes, dont la pratique rituelle, peut-être l'ivresse des nous fusionnels au sein de la communauté. Je dis ça avec beaucoup de respect pour les autres traditions religieuses, mais que ça a un coût minime au niveau des données irrationnelles. Ça, il faut croire en Dieu, point, et un prophète. Et donc, il n'y a pas de mystère, en réalité, ou très peu. Ce sont tout cela réunis qui peuvent expliquer cet attrait pour la tradition religieuse islamique, et a fortiori maintenant.
Oui, je pense que vous avez raison. Je pense que ça explique une bonne partie des conversions. En tout cas, dans les discours, dans les récits de conversion que j'ai recueillis, c'est quelque chose qui ressort souvent, qui est très important pour les personnes. Faire partie de la Oumma, de la communauté des croyants, c'est quelque chose de véritablement performant.
Mais on ne savait pas que la Oumma, les Juifs en faisaient partie à un moment donné.
Tout à fait. Et puis, je voudrais rebondir sur ce que vous disiez, parce que vous avez tout à fait raison, me semble-t-il, c'est que c'est aussi...
Là, vous parlez à Dominique Théhuissin.
Oui, pardon. C'est aussi une religion qui est vue comme extrêmement simple, ou logique, je dirais. Et ça aussi, c'est quelque chose qui ressort dans les discours. Finalement,
c'est facile. Il n'y a qu'un. Pourquoi tu compliques les choses?
Alors, c'est simple, c'est cohérent. C'est pas compliqué. C'est pas le mystère de la Trinité où on sait pas vraiment qui est qui, etc. Il y a un prophète, il est l'envoyé de Dieu sur terre, etc. Et on a une relation directe avec Dieu. Voilà, là il y a quelque chose de la simplicité qui ressort dans les discours. Et puis évidemment il y a aussi le fait que c'est le dernier monothéisme qui arrive, donc il y a l'aboutissement aussi.
Le dernier monothéisme reconnu.
Oui, tout à fait.
Oui, elle est à la fois bahaï,
oui,
il y a
d'autres. Oui, c'est ça, je pensais justement à la fois bahaï, effectivement.
Voilà. Et donc ça, ça fait...
La fois bahaï est reconnue.
Oui, enfin, quand je disais reconnue, enfin oui.
Non, mais voilà, c'était effectivement pour dire que c'est l'un des arguments qui est donné par les convertis dans leur récit pour justifier leur...
Mais c'est des arguments qui sont vendus aux convertis, en fait, je pense, parce que je pense qu'il n'y a rien de simple quand on embrasse l'islam, c'est tout à fait faux, et que la foi reste un mystère, c'est clair, le rapport au transcendant, ça reste quelque chose qui est très intime et très très personnel, et c'est vrai qu'il y a cette espèce, moi je trouve qu'il y a quelque chose de très culturel aussi, finalement des cultures dans lesquelles on est beaucoup dans le collectif, hein, des sociétés qui fonctionnent fort sur le modèle traditionnel, et donc il y a un contrôle social important, on regarde les uns et les autres ce qu'on fait, etc. Et donc du coup, quand on vient avec des choses très personnelles, comme on va en trouver plus, un petit peu plus du côté soufi, moi je me suis fait entendre au départ, oui mais tu compliques tout, l'islam c'est simple, tout est dans le Coran, avec quoi est-ce qu'on vient? Moi parfois je réponds aux gens, mais quand t'as une rage de dent, t'ouvres le Coran, tu vas chez le dentiste. C'est une question idiote et pragmatique. Ça, c'est le truc qui est universel. Personne ne supporte le mal dedans. Voilà. Et donc, non, tout n'est pas dans le Coran. Et, enfin, voilà, il y a des choses, il faut faire des liens. Et ça n'est pas simple du tout. Parce que la vie n'est pas simple, parce que les rapports humains ne sont pas simples, parce que de trouver sa place sur Terre, ça n'est quand même pas un cheminement si simple que ça pour personne, qu'on soit musulman ou pas. Et c'est vrai que là, cette simplification, c'est ce qu'on va trouver... Je pense, quand on va un petit peu vers le radicalisme, etc., on trouve des choses très, voilà, très basiques, très simples, et on dit « yaka » et c'est comme ça. Moi, je me fais de temps en temps allumer sur ma page Facebook par des gens qui me disent que je vais égarer tout le monde, parce que je réfléchis, en fait.
Bien, et c'est bien de réfléchir, j'y reviendrai. Loïc Lepape, vous dites dans vos écrits, vos travaux, vos conférences, que donc une conversion, c'est rendre publique une appartenance religieuse nouvelle. C'est quoi ? C'est un acte fort, j'ai même envie de dire un acte politique au sens premier du terme. C'est, on est dans la cité et on met en avant une appartenance confessionnelle. Ça y participe d'une telle démarche ?
Complètement. Complètement. C'est véritablement prendre position dans l'espace social dans lequel nous évoluons. Et c'est quelque chose qui est tout sauf neutre. C'est de dire je suis croyant. Ce qui n'est déjà pas neutre, y compris, et surtout en France.
Dans nos sociétés sécularisées, dans nos sociétés, ça n'est plus neutre, c'est vrai.
Je suis croyant et je suis croyant de telle religion, en l'occurrence l'islam, quand on est converti à l'islam. Et donc il y a deux, si vous voulez, il y a presque deux niveaux, en fait. J'ai souvent l'habitude de dire, de façon un petit peu caricaturale, mais quand même, en France, la conversion, c'est d'abord une conversion à la religion. C'est d'abord une justification du fait d'être croyant, avant de justifier de l'appartenance à une tradition particulière. Et donc je crois qu'il y a ce double niveau qui est véritablement un acte fort. Et si on part du principe, même si vous parliez tout à l'heure de personnes qui se convertissent dans leur coin, qui ne le disent pas et donc qui gardent pour eux, si on part du principe que la conversion doit être dite, c'est véritablement une prise de position politique.
Dominique Théhuissen, j'ai senti, j'ai perçu, puis vous avez écrit beaucoup d'ouvrages, vous êtes essayiste, écrivain. D'où vous est venue la connaissance théologique ? Alors, vous avez appris ça par vous-même, vous êtes inscrite dans une école, dans une madrasa, dans son sens premier du terme, bien entendu, pour que vous deveniez à votre tour enseignante en religion islamique en Belgique.
Être très compliqué de répondre à cette question de façon simple, parce que d'abord, pour être enseignant de religion islamique en Belgique, il n'y a pas encore de cursus, il est tout frais, sorti. Au départ, c'était le centre islamique de Belgique qui était géré par des Saoudiens qui formaient nos profs de religion islamique, de façon quand même assez sommaire et basique. Voilà.
De facture wahhabite ?
Oui, tout à fait. Oui. Et donc ça a duré jusqu'à l'établissement de l'exécutif des musulmans de Belgique. Et puis c'est l'exécutif qui s'en est chargé en faisant un programme, voilà, qui tenait plus ou moins la route, mais qui restait un truc que moi j'ai trouvé extrêmement sommaire, mais qu'on fait en cours de route. Donc on est prié d'avoir un minimum de connaissances de l'islam. Alors on n'est pas des professeurs de théologie, on est des enseignants, je vais dire, de citoyenneté, couleur musulmane. Plus, il faut plus le voir comme ça pour se référer à quelque chose qui peut parler à tout le monde. Et donc voilà, ça c'est par rapport à la question d'être prof. Donc du moment que vous avez des connaissances de base suffisantes et que vous n'êtes pas trop extrémiste, etc., on va vous dire ok, c'est bon, qu'on voit que vous avez un peu de qualité pédagogique, c'est bon. Et on vous certifie, on vous forme par après. Voilà. Et puis, par rapport à moi, ça a été extrêmement éclectique, comme tout mon parcours, en fait, et comme dans ma manière particulière d'apprendre. Et donc, moi, je suis partie des questions qui se posaient à moi, et j'ai cherché. Et j'ai fait, à un moment, j'ai fait un quadrimestre de cours au centre islamique, précisément, pour, d'initiation à l'islam, pour voir un peu ce que c'était. Quand j'ai vu ce que c'était, j'ai pas continué, voilà. Mais je voulais me faire mon idée par moi-même. Je me suis dit non, mais enfin, on va pas avoir le temps de développer des choses comme ça. Et puis j'ai cherché dans les bouquins, j'ai cherché dans les exégèses, j'ai cherché dans des recueils de hadiths sur Internet, en partant chaque fois d'une question.
Les hadiths étant les aphorismes du prophète, voilà. Ses propos, oui. Ses dires, bien.
Et donc, chaque fois en partant d'une question précise, alors c'était des questions soit qui m'étaient posées dans ma vie privée, des trucs que mon mari me disait, je disais mais enfin non, ça va pas, c'est juste pas possible ce que tu me racontes. Et puis j'ai cherché dans mes consultations aussi, alors forcément j'ai attiré de plus en plus de gens qui étaient de confession musulmane et qui voulaient bien consulter un psy parce qu'il y a encore tout ce côté-là. Et puis qui étaient là avec des questions, je ne savais pas répondre à tout, donc je cherchais. Donc finalement, en étant... en cherchant comme ça un peu tous azimuts, s'est constitué quelque chose d'assez clair finalement dans ma tête. Alors moi, je fonctionne d'un point de vue intellectuel de façon macro. Donc j'ai besoin en général d'avoir une vue d'ensemble. Et au moment où j'ai la vue d'ensemble, je commence à comprendre. Et à un moment, j'ai compris le paysage de l'islam, je vais dire en gros, et puis de l'islam européen. Et là, j'ai commencé à me repérer et à me dire, ah ben ça, c'est frériste, ça, c'est ceci, ça, c'est cela, ça, c'est... Mais je suis incapable. Parfois, les gens me disent, comment tu as appris? Alors moi, je suis un peu particulière sur le plan intellectuel. Je ne sais pas très bien l'expliquer, si ce n'est que par toutes ces démarches-là. Et à un moment, ça a formé une connaissance assez, assez consistante, finalement, quand même, de tout ça.
Dans toutes ces descriptions, quand vous dites ça, c'est frériste, je réexplique, c'est selon les frères musulmans. Dans l'émission Questions d'Islam. Nous abordons la troisième partie avec Loïc Lepape et Dominique Théhuissen pour parler de conversion, et tout particulièrement de la conversion à l'islam. Après avoir compris le sens du mot et puis différentes typologies, je vous pose la question à vous, Loïc Lepape, qui est maître de conférence à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Vous êtes chercheur, sociologue des religions. Et Dominique Théhuissen, vous êtes psychothérapeute, conférencière, enseignante de religion islamique en Belgique. Et vous êtes le témoin ici. Le chercheur, c'est Loïc Lepape. On a parlé, pas en filigrane, mais peut-être pas, on n'a pas donné, je n'ai pas posé de questions davantage sur deux types de conversions dont vous dites, Loïc Lepape, qu'elles sont d'évaluer la conversion fanatique et la conversion d'illuminé, exalté. Et comment peut-on les percevoir, hormis les cas de démence ou de fulgurance par moment que Dominique Théhuissen a mentionné tout à l'heure?
Alors dans ces deux catégories, ce que j'ai, donc la conversion fanatique d'un côté et la conversion illuminée de l'autre, j'ai essayé de montrer que c'était des façons de s'engager religieusement qui était socialement dévalué, c'est-à-dire qui mettait en péril l'opération dont on a parlé de justification et d'explication de la conversion. C'est-à-dire qu'on pouvait justifier de façon fanatique ou de façon illuminée une conversion, mais que le retour, l'interaction, pouvait ne pas venir, c'est-à-dire qu'on pouvait être catalogué autre chose que converti. On pouvait devenir fanatique ou devenir illuminé. Voilà. Donc, la conversion fanatique me semble correspondre à ce qu'on disait dans la typologie tout à l'heure à une forme de radicalité. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de montrer.
Donc vous avez dit, pardonnez-moi, qu'on en parle beaucoup, mais personne ne sait ce que c'est au juste. Mmh. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'on aurait pu en dire davantage ?
Question compliquée que vous nous posez là, parce que c'est...
Si vous en êtes d'accord, vous reviendriez et en nous consacrant le temps qu'il faut pour ces questions compliquées.
Avec plaisir. Non, la conversion fanatique, gardons le mot que j'ai utilisé, c'est une conversion qui serait trop intransigeante, si vous voulez, pour être acceptée par sa famille ou par son entourage et aussi par une partie de la communauté musulmane. Voilà, donc c'est ce qui arrive quand quand le converti est trop insistant sur un certain nombre de règles qu'il veut imposer aux autres. Typiquement, la volonté de convertir sa famille ou d'obliger sa mère, ses sœurs, ses enfants à porter le voile, etc. Donc c'est quelque chose qui ressort d'une sorte d'exagération de la conversion qui peut aller jusqu'à la violence verbale, violence physique, etc. La conversion illuminée, c'est différent. La conversion illuminée, c'est quand on tente de trop intellectualiser, si vous voulez, et qu'on est perçu comme un illuminé au sens étymologique. Et en fait, c'était pour moi une façon de faire le lien avec l'engagement sectaire. Parce que une conversion dans une tradition reconnue est assez facile à percevoir, mais on peut aussi se convertir à des formes particulières de religiosité à l'intérieur même des monothéismes et n'être pas loin de ce que en France on appelle un engagement sectaire. Et donc c'est ça que j'ai voulu montrer dans cette catégorie.
Dominique Théhuissen, n'était la mention de Loïc le Pape à propos de ces fanatiques qui obligeraient leur sœur, leur mère ou leur fille de porter le voile, je n'aurais pas osé vous la poser directement la question. Et pardon, c'est pas pour faire du sexisme en creux, vous êtes une femme d'intelligence et d'esprit, et vous êtes aussi une femme de charme et de beauté, mais vous ne vous êtes pas emmitouflée, les auditeurs ne vous voient pas, mais vous êtes telle que vous êtes naturellement sans le voile. Alors, ce sont des questions qui ont été abordées, qui ont posé problème ou non?
Ah oui, 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 oui. Surtout quand on est une femme. Ça, la question du voile, c'est compliqué, compliqué, compliqué. Moi, j'ai jamais été convaincue. Je le porte, hein, de temps en temps. Je l'ai porté de façon graduelle comme ça. Ça a fait une montée, puis ça a fait une redescente par rapport à ça. Je n'ai jamais été convaincue de faire un acte d'adoration en mettant un voile sur ma tête, entendons-nous. Par contre, dépression, il y en a dans la communauté, il y en a énormément dans la prédication, c'est incroyable. Et donc, c'est considéré pour les femmes quasiment comme l'aboutissement d'un cheminement spirituel et une soumission à Dieu. Alors, voilà, on va pas épiloguer parce qu'on n'aura pas le temps sur toutes les raisons qui peuvent pousser des femmes à porter le voile. Il faut retenir de ça la pudeur et puis on peut aussi l'analyser d'un point de vue sociologique. Je pense qu'il y a des choses qui ont beaucoup de sens dans la démarche. Et donc ici, je de plus en plus, je me présente sans voile. Je le porte encore pour des raisons... soit de communication, parce que voilà, si je me présente devant une assemblée qui est musulmane et que j'ai pas un voile sur ma tête, c'est comme le médecin qui arrive sans blouse blanche, il est plus tout à fait autant médecin qu'avant, hein, voilà. Ça, c'est une chose.
C'est de fait devenu un uniforme.
Oui, tout à fait. Ah oui, oui, mais je le revendique en tant que tel et je ne l'ai jamais porté finalement autrement. Parce que je pense que, oui, c'est la manière dont on se présente devant les autres. Avant de venir ici, ben, je réfléchis à ma tenue. Bon, d'abord, je suis une femme, donc c'est un peu plus important pour moi, peut-être que pour certains messieurs. Mais voilà, en me disant, je vais venir en train, il faut que ce soit pratique, en même temps que je ne sois pas habillée non plus n'importe comment, etc. Et je pense qu'on réfléchit chaque fois quand on va dans certains milieux. Et donc, moi, quand je vais dans certains milieux, il y a beaucoup de musulmans, beaucoup de femmes voilées. Si je reçois, par exemple, dans mes consultations un couple, qui est très pratiquant, dont la dame est voilée, etc., etc. Je vais mettre mon voile. Enfin, moi, je porte plutôt un turban, évidemment, parce que c'est beaucoup plus confortable, en tout cas pour moi. Et donc, je vais me couvrir les cheveux par respect. Voilà, j'ai cette démarche à certains moments. Maintenant, c'est vrai que dans ce qu'on entend comme discours, c'est d'une lourdeur. Vous parliez tout à l'heure de Loïc, de ses convertis qui essaient de convaincre leur famille, etc. Il faut quand même voir la pression qu'il y a dans la prédication pour toutes ces questions-là, pour la question du voile, pour la question de respecter certaines règles autour de l'alcool, autour de l'alcool sur la table familiale, etc.
Et comment vous, Dominique Théhuissen, avez pu résister à cette pression communautaire, et c'est ce que j'appelle parfois la normativité obèse qui est devenue de plus en plus grosse et qui asphyxie et qui étouffe.
Qui asphyxie la spiritualité en plus. Sur le coup, c'était très compliqué à expliquer. Maintenant, je l'analyse beaucoup plus dans l'après-coup. Mais je le faisais de toute façon, je le faisais de façon pratique. Je pense que j'ai fait marcher mon intelligence et mon sens critique. Et que, à des moments, quand on me disait, oui, tu peux pas t'asseoir à la table de quelqu'un qui boit du vin, etc., il faut respecter ton père, et puis, alors on prend toutes les règles, et on les met, et puis on est complètement dans des paradoxes et des doubles contraintes en permanence. Alors moi, je suis systémicienne, pour ceux qui connaissent un peu le monde de psy, et la double contrainte, c'est ce qui rend fou, en fait. Et donc, quand j'étais face
à ça. Et les certitudes aussi, selon Nietzsche, mais bon.
Oui. D'une autre manière. Mais en fait, je me suis toujours dit, mais il faut réfléchir. Et donc, si je suis devant une double contrainte, eh bien, quand on est dans un dilemme, par exemple, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de prendre la chose la moins mauvaise ou la meilleure. Hein. Et donc, par exemple, si je vais me poser la question de savoir si je rendais visite à mon papa qui avait une bouteille de vin sur la table, mon père qui avait 80 ans passé, ben voilà.
Et qui a passé sa vie à boire
du vin. Ouais. Qu'est-ce que j'en avais à faire qu'il avait son verre de vin? Ça ne m'a jamais dérangé. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Et même, j'ai même été plus loin, et je le dis sans rougir du tout, j'emmenais de temps en temps mon papa manger au restaurant, j'allais pas lui demander de boire autre chose que du vin, et si je lui offrais le repas, je lui achetais son vin. Alors, enfin voilà. Mais vous dites ça à certains musulmans, c'est « Aoudoubillah, qu'est-ce que tu as fait là ?»
Aoudoubillah, ça veut dire « Je prends refuge auprès de Dieu, auprès de Dieu, cet acte ignominieux. »
Voilà, tout à fait. Et donc, je pense vraiment par le bon sens et en se disant à un moment, et puis j'ai pris de plus en plus de recul par rapport à ça. Au début, j'étais quand même un peu dans le doute, et puis je me disais, ben non, voilà. Et puis j'ai pris de plus en plus d'assurance et de plus en plus de recul en me disant, non, ça, c'est pas la religion. Moi, je suis une ancienne chrétienne quand même. Est-ce qu'on nous vend comme image de Jésus? C'est l'image de l'amour, tu tends la joue droite, machin, etc. Donc on est dans des trucs comme ça, et donc je pense que ça, à un moment, ça a pris le dessus avec beaucoup plus de tolérance, etc. Bien.
Alors, la tolérance, il y a des maisons pour cela, disait Claudel, empruntant la parole, dit-on, à Peggy. Mais là, je ne suis plus sûr de la filiation. C'est qu'il nous reste très peu de temps. J'aurais voulu vous poser une question, Loïc Lepape, mais vous nous promettez de revenir pour en parler. C'est cette fois-ci la conversion, non plus à l'islam, mais l'apostasie, c'est-à-dire vaste problème sur la liberté de conscience. Mais nous le traiterons, c'est promis, une autre fois, et surtout si vous nous faites l'amitié de revenir. Merci à vous deux, merci Dominique Théhuissen pour votre témoignage sincère, merci Loïc Lepape de nous avoir édifiés par vos propos et le résultat de vos recherches.
Merci à vous.
Chers amis auditeurs, vous retrouverez les références des musiques et des livres de nos invités sur le site franceculture.fr. L'attaché d'émission est toujours Sylvia Favre. La prise de son est assurée aujourd'hui par Jean-Richard Dufour. Et la réalisation est toujours assumée par l'ami Franck Lilin.
Où est-elle? Sa perlotte, ma jumelle, Aïcha, Aïcha, c'est moi, Charlotte. Ses trouvailles, sa perle, ses ferrailles, Aïcha, Aïcha, c'est moi, Charlotte. Où es-tu, sa perle, retenue? Aïcha, Aïcha, c'est moi, Charlotte. tes lettres. Sa perlotte, tes pirouettes. Aïcha, Aïcha, c'est moi, Charlotte. Je chavire. Sa perlotte, sans ton rire. Aïcha, Aïcha, c'est moi, Charlotte. Et je pleure. Sa perlotte, tes couleurs. Aïcha, Aïcha, c'est moi, Charlotte. Elle s'émiette, sa perlotte, ta silhouette. Aïcha, Aïcha, c'est moi, Charlotte. Tu me manques. Sa perlotte, tu me manques. Aïcha, Aïcha, c'est moi, Charlotte. Où est-elle? Sa perlotte, ma jumelle. Aïcha, Aïcha,